RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, des annulations de matchs suivies d'un véritable psychodrame qui aura engendré cris, colère et menaces en tout genre. Et bien tout ça n'aura finalement pas eu de répercussions dramatiques en termes sportifs pour les clubs français engagés en Champions Cup et notamment le Stade Toulousain qualifié sans jouer mais en criant. Cette quatrième journée européenne n'a certes pas amélioré la crédibilité de l'EPCR, la société organisatrice de la compétition, mais les Français eux, s'en sortent finalement plutôt pas mal, même lorsqu'ils ne jouent pas. Entre les on va évidemment revenir sur ce week-end de colère et faire le point de la situation, savoir notamment si les menaces seront suivies d'actes forts ou si une fois la qualif en poche, comme souvent, tout ça va se calmer et on va attendre le printemps. Le Stade Toulousain dans cette affaire en a-t-il trop fait ou au contraire a-t-il eu raison de dénoncer les errements de l'organisation? Ce sera le thème de notre mêlée. Puis on se penchera aussi sur les affiches des huitièmes de finale puisqu'on les connaît. Les Français seront très fortement représentés avec pas moins de 7 clubs qualifiés sur 8 engagés en début de compétition. Ils font mieux que toutes les autres nations. Oui, finalement, le crime a bien profité à qui ? À nos clubs. Et puis en fin de podcast, on recevra également l'ancien capitaine du 15 de France, Guillaume Guirado, capitaine de Montpellier. Il était sur la pelouse la semaine dernière pour la fantastique déculottée que le MHR a pris. 89 pions quand même, ça fait mal. Mais ils se sont rattrapés ce week-end avec une victoire face à Exeter. Ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. Si on a le temps, on parlera également de l'équipe de France qui est chez les légionnaires, messieurs. Ben oui, ça rigole plus pour les Bleus qui entament leur tournoi et leur préparation pour le tournoi. Nos légionnaires à nous, il se nomme Denis Charvet, général 3 étoiles. Vous avez fait votre service, monsieur le général ?
Non.
Non, et ben voilà, c'est bon ça.
C'est 4 ans.
Manu Massicard, lui, est commandant d'un immense. Ça vous est. Ça vous est.
Je me disais aussi.
Ça ne m'aime pas, quoi.
Il
se fait P4.
Il est fier.
Ouais, je ne mens pas, non, je vous dis la vérité.
Mais c'est vrai que.
On l'a trafiqué, voilà. Je ne me sens pas fou pour autant. Hein.
Appelez-moi aviateur, messieurs, dames.
Ah, toi, t'es aviateur. Toi,
oui,
t'as fait. Ah,
je suis aviateur et fier de l'être.
Ah, ouais. Le Top Gun du pauvre.
Je pense c'est ça. Non, du pauvre, s'il te plaît.
On sait plutôt qu'en dirigeant un porte-avions tel que Midi Olympique, tu serais amiral, mais non, tu es un aviateur. Et puis les moussaillons d'RMC, ah, ils ont fini de briquer le pont, hein, ils ont mis leur képi, adjudant Paturo et deuxième pompe, tant pis au rapport.
Oui, chef.
Ouais. Pas de service pour moi, merci Jacques Chirac. Ouais, hop là, 1995.
Ah oui, t'es passé à travers les gouttes.
Ça t'aurait fait du bien pour toi.
Merci Président. Ah,
moi j'ai fait comme Denis, et voilà, on est avec une troupe d'élite, la 7ème compagnie du rugby français, on peut partir à la guerre. Ça tombe bien, ça a canardé ce week-end.
Et en fait, ce que je trouve incroyable et scandaleux, c'est que le PCR n'applique pas les règles. Et aujourd'hui, le PCR nous dit non. L'équipe que vous présentez, on peut avoir le doute d'une positivité potentielle et on ne vous permet pas de jouer. À qui profite le crime, quand même ?
On se doit de respecter la règle. Si on ne respecte pas la règle, on se met hors la loi. Et si on se met hors la loi, on est suspect, obligatoirement. Hein. Donc, ils sont suspects.
Alors, on savait que le Covid provoquait de la fièvre. On en a eu la preuve avec cette brusque montée de température vendredi, lorsque le PCR a donc annoncé aux Toulousains qu'ils ne pourraient disputer leur match face à Cardiff, alors qu'ils avaient pourtant le nombre requis de joueurs pour affronter les Gallois. Annulation vécue comme une injustice par les Toulousains, qui se sont regroupés autour de leur président, Didier Lacroix, et de son prédécesseur, René Bousquetel, aujourd'hui président de la LNR. Et ensemble, eh bien, ils ont secoué le PCR comme un beau cocotier, qualifiant notamment ses dirigeants de « hors-la-loi ». Alors, on ne va pas tout reprendre à zéro. Si vous êtes passionné de rugby, vous avez sûrement suivi le feuilleton tout au long du week-end. Avec toi, Wilfried, on va quand même faire le point de la situation. Le Stade Toulousain et la Ligue menacés ce week-end de poursuites judiciaires, le PCR. La fièvre est-elle retombée ou les menaces vont être mises à exécution ?
Je pense pas que la fièvre soit retombée, hein, de manière sûre. On va voir si Didier Lacroix et les Toulousains mettent leur menace à exécution, comme tu dis, d'aller tout simplement, il l'a dit, devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Moi, je pense que ça fait aucun doute, vu l'intensité, après l'intensité de sa conférence de presse vendredi dernier. Et puis, alors, ce sera pas sportif, de toute façon, ils sont qualifiés, hein, les Toulousains, mais c'est surtout pour obtenir une réparation financière concernant un match à domicile, certes sous jauge réduite, mais selon ce qu'il en a dit, avec un manque à gagner de 600 000 euros, c'est ce qu'il nous disait à la conférence de presse.
Pour combien de spectateurs ?
Pour 5 000, c'est vrai que ça fait beaucoup.
C'est impossible.
C'est cher le billet, non ?
Mais non, mais c'est impossible.
C'est des billets en or.
Ça te fait rire, Manu. Alors, tu dis qu'il a menti.
Non, mais comment il peut
dire... Tu dis que Didier Lacroix ment.
Non, pas du tout.
Non, mais comment il te l'a expliqué ? C'est ça qui est important. Comment ils expliquent bah, ces 100 000 euros? Parce que s'il y a une jauge à 5 000, tu ne peux pas avoir ces 100 000 euros de recettes.
Mais il y a beaucoup, ouais, il y a tous les sponsors, je sais
c'est
pas.
Peut-être sa secrétaire qui a mal retranscrit le texte, ça arrive. Bah,
hein. Peu importe, le préjudice était bon. Là et bien là. Donc,
c'est sûr, parce que 600 000 euros, titre de comparaison, c'est un salaire annuel non chargé d'un très bon joueur. Ouais. Donc effectivement, ça peut faire beaucoup. Bon, après,
peut-être qu'il a confondu avec Colby.
Le Stade Toulousain
s'est qualifié. Il n'est plus à Toulouse. Il faut lui dire que Colby n'est plus à Toulouse.
Il est à 15.
Ça reste essentiel quand même que le Stade Toulousain soit qualifié dans ce voilà quand on se retourne sur cette phase de poule où bah, tout est arrivé. Les Toulousains ils prennent l'Ulster, 8e de finale retour à Belfast. On va en reparler. Ça sera pas une mince affaire, mais ils auraient pu s'ils avaient joué contre Cardiff et qu'ils avaient battu les Gallois, ils auraient pu prendre le Leinster. Donc bon an mal an, même si voilà ils auraient préféré jouer. Il y a une histoire de rythme. Il y a plein d'autres choses derrière. Le seul souci, on va le voir plus tard, c'est que avec le nul attribué sur la deuxième journée à la place du match à domicile face au Wasp, vous savez quand les équipes n'ont pas pu se déplacer entre Angleterre et France, les Toulousains ont eu un nul sur un match à domicile, et plus ce match contre Cardiff perdu à 0 point, ça veut dire que Toulouse dit au revoir à des matchs à domicile éventuellement en quart et en demi, et on en reparlera ce que ça peut être sportivement, quels adversaires peuvent se présenter devant Toulouse si les Toulousains vont jusque là, mais sachez que c'est un stadium de Toulouse en quart et en demi. Là, pour le coup, c'est un million et demi de recettes. Et ça, ils disent au revoir avec ce qui s'est passé ce week-end et ce qui s'est passé durant ces phases de poule. Ils disent au revoir à des recettes comme ça du côté du Stade Toulousain.
Moi, je pense qu'ils disent au revoir à la Coupe d'Europe, surtout. Quand tu vois le tableau qui est annoncé...
On va en parler, Denis, ouais, parce qu'il y a un fil conducteur avec Christophe.
Oui, on suit les choses. On n'est pas dans le Moscato Show, là.
Mais quoi, lui, il n'arrive pas
ça. Mais ça y est. Un sujet comme ça qui tombe. Allez, tiens, si
Christophe,
je parle de ça.
Fait une semaine qu'il bosse dessus.
Je ne réponds pas, Jeff, je ne réponds pas. C'est trop petit, là.
Faut pas bon, le Stade Toulousain qui a reçu le soutien inconditionnel de la ministre, hein, Roxana Maracineanu. C'est quand même assez rare qu'une ministre se mêle d'un problème de ce genre. Je ne sais pas si ça aura du poids, mais en tout cas, les gens de l'EPCR...
Elle a écrit au président de l'EPCR pour demander des explications, pour faire part de son incompréhension, avec des termes assez durs. C'est vrai que c'est assez étonnant comme démarche, mais il y a une vraie volonté d'avoir... savoir pourquoi on en est arrivé là, et ça vient du gouvernement français. D'ailleurs, ça a un peu étonné les journalistes étrangers depuis quelques heures, depuis que c'est sorti, depuis qu'on a eu l'info hier, en disant, mais pourquoi ? Il y a une loi, pourquoi ? Et pourquoi le gouvernement fait ça, alors que les Irlandais l'ont pas fait pour le Leinster, par exemple, aussi.
Exactement.
Ouais. Manu, tu es surpris de la position de la ministre ?
Je suis surpris d'un petit peu tout ce qu'on entend depuis quelques jours. Évidemment que la décision est difficile à digérer. Jeff nous l'a rappelé, Toulouse n'est pas un cas isolé. Il y a eu le Leinster et qui s'est aussi trouvé floué et qui a subi cette réglementation. Rappelons à chacun que pour chaque...
C'était le match aller, on précise, à Montpellier.
Ouais. Pour chaque nation engagée, c'est les protocoles médicaux des différents pays qui entrent en lice. Exemple, pour le top 14, pour la France, c'est le top 14. Pour l'Angleterre, c'est le premier chip. Et pour l'Irlande, c'est les Irlandais. Mais au-dessus de tout ça, il y a une instance. C'est la souveraineté européenne, hein, on n'invente rien. Et qui a le pouvoir de valider ou de ne pas valider. Par défaut, elle accepte la décision des commissions médicales. Mais c'est justement par défaut. Alors, on va se battre autour d'un mot. Moi, j'ai tendance à penser qu'une fois que sera réglé le différend financier, nos chers dirigeants oublieront que l'instance européenne boitille depuis des années et puis qu'ils passeront à autre chose, puisqu'ils sont tous qualifiés. Donc tout va bien, quoi.
Ouais. Alors, certains ont suspecté le PCR et ses dirigeants d'avoir voulu défavoriser Toulouse au profit d'on ne sait qui.
Bah, voyons.
À qui profite le crime, hein, demandait la Croix ce week-end. A priori, ni au Wasp, ni à Cardiff, qui sont tous les deux éliminés. Franchement, est-ce que vous croyez à une manœuvre malhonnête de la part des dirigeants,
la théorie du complot. Ouais. Quand vous regardez toutes les équipes qualifiées et celles qui sont éliminées, il n'y a pas beaucoup de surprises au final. Et qui voudrait, on ne va pas abattre le Stade Toulousain pour le PCR, c'est le club qui est champion d'Europe antique.
Pour l'image, c'est terrible, bien
n'oubliez
sûr.
N'oubliez pas quand même que c'est une gouvernance à trois têtes, je vous l'ai dit, irlandais, enfin celte, anglais, français, et quand dans ce fameux jeu politique, il est toujours bien de déstabiliser l'adversaire.
C'est sûr.
Et pour le coup, ce sont les Anglais qui ont voté non pas contre, enfin si, qui ont voté contre les Français, et la bonne tenue de ce match. Donc si le crime doit profiter à quelqu'un, si on suit les votes, ça peut être les Anglais.
Non, mais il fallait une histoire rocambolesque pour que Toulouse soit éliminé. Donc,
ah non, mais pas rocambolesque. Voilà. Quoi. Enfin, tu me diras, il fallait que le WAS s'accroche.
Bah si, c'est pas arrivé. Ouais. Si, les WAS ont pris une tablée au Munster.
Non, mais il y avait une chance. Oui, enfin... Non, mais c'est incroyable qu'il y avait encore une chance de les éliminer sous tapis vert. Quoi. C'est un truc de fou. Moi, pour moi, non, il n'y a pas de complot. Après.
Bah, il fallait que le Stade français passe 38 points au Connacht aussi.
Ça fait 100 ans qu'on est dirigé comme ça par les Anglais, donc on ne va pas s'étonner.
Alors, justement.
Non, mais je veux dire, par les Irlandais, par les Celtes.
Par ceux qui sont de l'autre côté de la Manche. Oui, voilà.
Je te rappelle qu'au niveau européen, la France a toujours été en bonne position au niveau de l'EPCR. Hein.
Oui, avec des présidents.
Oui, justement, qui décide vraiment dans cette EPCR? Tu disais gouvernance à trois.
Le
board. Donc, c'est-à-dire, il y a trois personnages, enfin, il y a trois entités qui sont représentées. Et donc,
il y a différentes ligues françaises, anglaises et celtes. Ce sont les trois représentants.
Trois représentants, donc c'est ce que disait ça se joue à l'unanimité ou à la majorité.
Et c'est ce que disait René Buscatel ce week-end, c'est qu'il s'est un peu mélangé les pinceaux quand il a dit qu'il expliquait, mais les Français peuvent se retrouver à un contre deux. C'est-à-dire que s'il y a des intérêts communs entre Britanniques, entre les Français,
c'est ce qui s'est passé.
On est minoritaire.
C'est ce qui est passé.
Voilà.
Mais vous voulez le détail de le comité directeur de l'EPCR, il y a 8 membres. Le président, c'est Dominique Maquet, c'est un Écossais. Il y a le directeur général, c'est un Français, Anthony Lepage. Et ensuite, il y a les autres membres. Il y a Emmanuel Echalier, qui est membre de la Ligue nationale de rugby. Il y a Simon Massey-Taylor, c'est pour le championnat anglais. Et on a deux représentants du United Rugby Championship, un de la Fédé italienne. Et enfin, il y a Bill Sweeney, qui est le directeur de la Fédération anglaise. Donc ça, c'est le comité directeur de l'EPCR qui prend les décisions. Et si on fait les comptes, on a quatre Britanniques et Irlandais, un Français, qui est représentant de la LNR, Emmanuel Echalier, un autre, je vous ai dit Anthony Lepage, mais lui, il est directeur général.
Il
est salarié, finalement. Ouais. Il est salarié de l'EPCR. Et enfin, un Italien. Donc, sans verser dans la parano, on peut penser que nos amis d'Outre-Manche représentent quand même une force plus importante dans la gouvernance et dans les décisions. Mais sans être parano, on le dit.
Ouais. Exactement.
Bon, les autres clubs français ont plutôt été discrets sur le sujet, tous sauf un, Christophe Hurios, qui était grande gueule du sport hier matin avec nous.
Il a mis des précautions.
Et voilà, j'ai enlevé les précautions, j'ai juste pris pour qu'il nous explique pour lui il y avait scandale.
En top 14, quand tu es touché par le Covid, quand tu es capable d'aligner une équipe avec 15 pros et 6 premières lignes, tu dois jouer le match. Peu importe si tu es en difficulté ou pas. La Coupe d'Europe, c'est la particularité, en tout cas de ce que j'en sais, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que c'est une commission, c'est à l'appréciation d'une commission qui s'appuie aussi, effectivement, sur les experts de la Ligue nationale de rugby française. Donc là, ils ont convenu. Même si Toulouse était capable d'aligner plutôt une belle équipe sur ce match, ils ont convenu de par le nombre de joueurs qui avaient été touchés dans la semaine, ça représentait un cluster probablement, donc ils ont annulé le match. Quand on dit qu'il n'y a pas de règle, si, il y a une règle. Enfin, ou en tous les cas, c'est l'appréciation de la commission. Je crois qu'il n'y a pas scandale, quoi. Voilà.
Voilà. Ah, c'est un peu court. Mais il y a des règles. Ce sont les règles. Non.
Et s'il y a l'appréciation après Manu Messi.
Mais pas du tout. Il y a les règles qui sont les règles nationales. Et c'est pour ça que Didier Lacroix s'énerve. En top 14, répète, en France, c'est les règles du top 14 qui s'appliquent. En Angleterre,
c'est les règles. Mais dit qu'ils doivent s'appuyer sur les règles françaises. Oui. Même le PCR doit s'appuyer sur les règles françaises.
C'est ce que je te dis. Il est marqué par défaut. Par défaut, la commission médicale.
Donc ils ont omis de le préciser, ça, dans leur communication. Les Français.
Et voilà. C'est autour de ce mot par défaut que tout le monde va se battre.
Ouais, d'accord. La déclaration
de... Lisez Midol, on a bien travaillé pendant que vous étiez tous en week-end.
Une déclaration... Hurios, il était chez qui? Je te signale quand même.
Il m'a réveillé dimanche matin.
Et toi, t'es où là?
Chez nous. Week-end, je dors. Vous savez, à Midol, on travaille que le dimanche.
Déclaration qui a provoqué à son tour une autre réaction, celle de René Buscatel, que tu as eu au téléphone, il était remonté. Hein.
D'abord, envoyé un texto pour réagir. Après, il voulait réagir parce que pour lui, c'est clair, la réglementation applicable, je le cite, ce qu'il nous disait hier, est celle appliquée dans le pays de chaque club concerné. En ce qui concerne le match Stade Toulousain Cardiff, la règle applicable est le protocole sanitaire. Bon, comme si ça ne suffisait pas, j'ai reçu d'autres messages des clubs français, de la Ligue nationale de rugby, qui précisent que le protocole EPCR prévoit que l'EPCR applique et s'en remet au protocole établi par la Ligue dont relève chaque club et s'en tient à la position de l'autorité médicale de cette Ligue s'agissant de la possibilité pour un club de disputer ou non le match lorsque les cas positifs sont déclarés. La commission médicale en France avait estimé, la commission d'expertise française en Covid-19 avait estimé que Toulouse pouvait jouer. C'est la position française et c'est la position qu'on martèle du coup depuis jeudi soir et même depuis vendredi matin et l'annulation de ce match.
Très bien. La célèbre solidarité de la grande famille du rugby français, c'est un classique. Hein.
Oui.
Depuis que le ballon est ovale. Finalement, au bout du compte, avec la qualification de Toulouse, on se dit qu'il y a eu beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose. Est-ce que Toulouse...
Sauf que, Christophe, est-ce que tous les clubs français sont d'accord avec le Stade Toulousain en ce moment ? Sur la position du Stade Toulousain ? Pour en avoir discuté avec d'autres clubs, à part Christophe Furios...
Tout le monde est d'accord ?
Ah non, il y en a beaucoup qui estiment que Toulouse en fait beaucoup.
D'accord. Alors, est-ce que c'est votre avis à vous aussi ?
Non,
vous dites non.
Mais moi j'ai du mal.
Toulouse est dans son bon droit. Toulouse a eu raison de secouer le cocotier. Toulouse a raison d'attaquer le PCR en justice. C'est pour vous, c'est. Denis.
Je pense que ça sert à rien de l'attaquer en justice, parce que ça va accoucher de rien. Donc,
Attends, 600 000 euros s'il la récupère.
Tu crois qu'ils vont la mettre jamais. Et puis ça va durer très longtemps. Enfin bon, je trouve que c'est peine perdue, c'est du temps perdu. Après, je sais pas, moi je regarde ça de l'extérieur, j'ai un regard extérieur, donc j'ai envie de dire c'est un scandale, et en même temps de me dire... Je veux dire, tout ça pour ça, quoi.
C'est la Coupe d'Europe dans son ensemble qui est bizarre.
Je pense que la Coupe d'Europe aujourd'hui, elle n'a pas la valeur qu'elle devrait avoir. Je ne sais pas si les
dirigeants... Tu dis ça, Denis, mais d'un autre côté, pardon de te couper, on va avoir une
phase finale terrible.
Avec des huitièmes en avril. Oui. Ça va être génial.
Oui,
t'as
génial.
Vu les affiches,
non, mais
ça
moi,
va
c'est
être
pour
génial.
Mais depuis le début, je dis qu'on oubliera tout ça. C'est ce qu'on dit depuis tout le temps. Dès qu'il va y avoir les phases finales, on va attaquer, on va se régaler, et puis on aura oublié qu'on n'a pas fait toute cette.
Pour moi, on l'a déjà oublié hier, par exemple, sur la fin de match du Stade français, sur le match de Montpellier contre, etc.
Oui,
on
voit des équipes qui se qualifient. Dès que Toulouse se qualifie, on oublie sous cette histoire.
Mais non, mais on voit qu'il y a une magie un peu qui s'opère, une qualification, c'est pas anodin quand même.
Après, moi, là où le vrai scandale, c'est quoi ? C'est que Toulouse n'a pratiquement aucune chance de gagner la Coupe d'Europe aujourd'hui.
Pourquoi ?
Mais parce qu'ils vont aller à l'Ulster, ils vont jouer chez eux le premier match à l'Ulster, ils vont aller au deuxième match à l'Ulster.
Champion en titre.
Après ils vont jouer
un match aller-retour.
Après ils vont jouer Exeter ou dites-moi tout.
Munster
en quart de finale, pas chez eux. Pas chez eux.
Là-bas.
Non mais je veux dire par là, vous comprenez pas que eux ils ont tout perdu là-dessus sur le sportif. Pas sur le. Et que s'ils avaient joué les matchs, ils avaient gagné, ils auraient jamais eu ces matchs-là, ils auraient peut-être pu recevoir.
Je
et là,
dis,
vu
je
l'état.
Je dis, il y avait 20 cas à Toulouse.
Non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis qu'ils peuvent se sentir frustrés quand même.
Et Denis, qui prend la décision de ne pas jouer le match de fin décembre pour ils auraient très bien pu jouer ce match.
Ouais.
C'est pas nous qui avons. Et c'est pas le PCR contre Cardiff, c'est ça ?
Ah oui, mais pourquoi ils ne le jouent pas ?
Bah,
les
WASP,
pardon.
Ah non, les
WASP,
ils ont peur.
Ah non, mais tu ne pouvais pas voyager entre les autorités. Il ne faudrait pas se déplacer.
Ce match, il aurait pu jouer. Sauf qu'il y a eu le principe de solidarité et que les Français ont dit on ne joue pas.
Parce qu'on ne veut pas laisser des joueurs là-bas ou on ne veut pas.
Exactement.
Ah oui, par précaution.
Sur ce niveau-là.
Bon, nous verrons.
Je
ne
dis pas qu'ils ne vont pas la gagner. Après, je ne sais jamais.
Si, on a bien compris. Mais Paris n'est pas ses chemises.
Mais c'est mission impossible. Mais c'est mission impossible, je vous le dis.
C'est vrai que c'est le combo match nul et défaite sur tapis vert. Ça fait beaucoup. C'est les deux. Ça, c'est normal.
C'est Toulouse quand même. C'est ton club, Denis.
Et voilà, le papier en plus dans le vestiaire du Gomola. Denis Charvet, Toulouse ne gagnera pas la Coupe d'Europe.
Vous êtes en train de expliquer que nos amis britanniques ont beaucoup d'influence et que vous allez voir quand tu vas aller jouer à Exeter ou à Munster, s'ils vont pas encore plus d'influence avec les arbitres. Non mais bon, bonjour.
Tu veux dire qu'on va se faire enfler encore par les Anglais, par les Celtes ?
Non,
et tu n'es pas du tout complotiste. On a bien compris que tu n'es pas du tout complotiste.
La gagne cette année, c'est la plus belle de tous les temps.
Ah oui,
d'accord.
Depuis sa naissance.
Il y a un cœur dans le corps.
Mais
de
la montagne, elle est quand même
internationale.
C'est l'Himalaya là qu'il faut grimper.
Alors, pour accompagner Toulouse en 8e, il y aura 6 autres clubs français : le Racing, le Stade français, Montpellier, Clermont, La Rochelle et Bordeaux-Bègles. Seul club éliminé, le Castres Olympique, qui est aussi la seule équipe à
avoir
joué tous ses
matchs.
Qui s'est fait voler. Pas là l'injustice finalement.
Ils se sont fait voler à la fin du match.
En plus. Oui, mais ils joueront le Challenge européen.
C'est de la victoire des Harlequins ce week-end où on voit même pas si le ballon touche la ligne.
C'est un scandale.
Dans à 82e, c'est terrible pour le Castres Olympique qui avait fait un brave match au Harlequins.
Mais on voit que le ballon.
C'est un sacré groupe cette année.
Je suis pas d'accord avec toi. On voit que le ballon n'est pas franchi la ligne.
C'est ce que je pense aussi.
C'est encore un coup des Anglais, Denis ?
Évidemment.
A priori, priori, le gouvernement va faire une lettre.
Ouais, le gouvernement.
Madame la ministre, vous êtes demandé au soutien de CAS.
Ah, c'est Jean, alors.
C'est Jean directement.
Alors, la France sera la nation la mieux représentée en huitième de finale. Donc, finalement, ils ne sont pas si puissants que ça, nos amis anglais et celtes. Huitième qui donneront lieu, Wilfried, à quelques affiches de prestige. Hein. Franchement, là,
on aura deux magnifiques duels franco-français. Un derby Stade Français Racing avec match retour à la Défense Arena. C'est un duel des extrêmes, hein, parce que le Racing sort numéro 1 et le Stade Français numéro 8. Mais vous serez d'accord avec moi, sur des phases finales, les choses sont tout autres. Il y a un UBB La Rochelle qui est de feu aussi. L'UBB, demi-finaliste l'an passé. La Rochelle qui a toujours en bouche le goût de la défaite en finale contre Toulouse. Ce qui est dingue, messieurs, c'est que la semaine précédente, c'est 8e aller-retour, eh bien, les mêmes clubs se rencontrent. C'est le fameux week-end des derbies de la LNR en top 14 et qui s'est mis en place depuis quelques saisons. Et donc, trois week-ends de suite, on va avoir du Stade Français Racing et du Bordeaux La Rochelle. Un coup en top 14 et deux coups en Coupe d'Europe. Et en championnat, ce sera au Racing et ce sera à Bordeaux. Et ça va être un beau casse-tête, je pense, pour les coachs dans la compo des équipes pendant trois semaines. Sinon, donc, on l'a dit, Toulouse jouera l'Ulster. Et pour Clermont, ce sera les Anglais de Leicester. C'est les leaders de la première chip. Pour Toulouse et Clermont, peut-être la partie la plus dure du tableau, parce qu'il faut ajouter de ce côté Exeter, le Munster, le Leinster. Ces trois que je viens citer auront ensuite l'avantage de recevoir en quart et en demi face aux deux clubs français. S'ils passent, donc ça s'annonce chaud, tu l'as dit, Denis. Un dernier mot sur Montpellier, 5 points sur tapis vert face au Leinster, 90 points dans la musette au retour à Dublin, mais une performance majuscule, on va dire, face à Exeter ce week-end qui permet au MHR de passer. Ce sera les Harlequins, champions d'Angleterre en titre sur la route des hommes de Philippe Saint-André.
Possible en plus.
Mais messieurs, il y a match à mon avis, vu ce que produit le MHR cette saison.
Et ce que produit aussi les Harlequins. C'est pas une super équipe des Harlequins.
C'est ouvert.
Ah, bah justement, on va en parler de ce match et on va parler de ce Montpellier à géométrie variable. On rappelle que la semaine dernière, ils ont quand même battu un record incroyable en encaissant 89 points. C'est quand même du rarement vu. Est-ce que Denis t'en a pris déjà
des 100 points en KD. À Cahors contre Carmont, 100 points.
Ah, est-ce que t'avais pris des pignoles
se replaçait dans le poteau, on engageait. Ça c'est
bon. Alors en KD ça passe, mais quand t'es pro et quand t'as un vieux pro. Qui a roulé sa bosse sur tous les terrains du monde.
Et que t'es capitaine en plus.
Et que t'es capitaine, je pense que ça fait un petit peu mal quelque part. Il est avec nous, le capitaine du MHR, Guillaume Guirado. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bon.
Salut Guillaume.
C'était pas encadé, C'était pas encadé la semaine dernière.
C'est pas un petit peu, c'est beaucoup aussi.
Ouais, c'est vrai.
c'est la plus.
Te fends pas la poire comme ça, Christophe. Ça fait
non,
plus lourde
que loin entre jeux.
Rassure-nous, Guillaume, c'est la plus lourde défaite que t'as suivie.
Ouais, forcément.
Ouais, parce que ça fait lourd, là.
Ouais, un petit peu beaucoup. Après, le contexte était particulier. Mais c'était dur parce que c'est une grosse gifle et surtout c'est un peu une humiliation et honte un petit peu donc voilà, il y avait beaucoup de jeunes malheureusement qui étaient sur le match et je pense qu'ils en garderont un très très mauvais souvenir et après ça permet aussi de toucher le haut niveau et de se rendre compte qu'une équipe quasi semblable à l'équipe de l'Irlande face à ce genre d'équipe on voit le niveau de différence par rapport à des matchs habituels qu'il peut faire. Donc, mais c'est vrai que 89 points, c'est vraiment très, très dur à encaisser.
Est-ce que les critiques ont été difficiles à digérer? Parce qu'on a lu beaucoup de choses aussi sur votre prestation.
Non, on s'est mis dans notre bulle et on a essayé de le balayer assez rapidement. Donc forcément, le mardi à la vidéo, ça a piqué parce que les images ont parlé d'elles-mêmes et que c'est une défaillance collective. Donc, chacun a fait des petites erreurs. Mais comme je vous dis, sur une équipe comme ça, c'est que le niveau ne permet pas de faire de petites erreurs parce que à chaque fois qu'il y a une petite erreur dans le système, c'est un essai au bout. Donc autant sur d'autres matchs, une petite erreur, c'est toujours compensé par un autre. À ce niveau-là et face à ce monstre du Leinster, qu'on a vu qu'ils ont réussi à faire la même chose contre Bass ou quasi semblable, ça pardonne pas.
En même temps, Guillaume, c'est un mal pour un bien. Quand on vous voit hier, ce que vous avez déployé hier, est-ce que la performance,
quel rôle a eu cette défaite,
la performance de votre match hier, bravo parce que vraiment, je l'ai vu ce match, c'est quel courage et quelle détermination.
Ouais, bien sûr. Après, ça a permis à tout le monde aussi de se remettre en question, d'une manière violente, mais des fois, c'est aussi bien. Et surtout, on voit que dans le rugby, pour certains qui ont joué sur le plateau, on voit que quand on met certaines bases en place, comme la détermination, l'engagement, le courage et l'agressivité, déjà, ça ressemble à un match de rugby, quoi. Donc par rapport à cela, on était contents, rassurés. Et qui plus est, face à une équipe de Exeter qui a été champion d'Europe il y a un an et demi, deux ans. Donc voilà, content du match, mais on sait que c'est pas abouti non plus. Donc malheureusement, il y a encore beaucoup de boulot pour nous. Donc on est content de la qualification aussi parce qu'on a réussi à se qualifier en n'ayant gagné qu'un seul match officiellement. Donc voilà, parce qu'on a gagné le match du Leinster sur tapis vert aussi. Je sais que ça fait énormément polémique en ce moment. Donc voilà, c'est vrai que on a été content au moins d'avoir pu valider ce ticket de qualification, même avec une seule victoire. Mais voilà, sachant qu'on va jouer contre les Harlequins, ça va être assez exceptionnel et ça va être énorme parce que c'est toujours plus, on va dire, un peu plus flatteur de jouer une équipe anglo-saxonne en phase finale de Champions Cup que de rejouer malheureusement une équipe française.
Guillaume, c'est quoi le vrai niveau du MHR cette année? C'est celui que vous avez montré la semaine dernière ou justement cette équipe capable de battre une équipe telle que Exeter qui a été champion d'Europe il y a très peu de temps? C'est quoi? Vous êtes entre les deux et j'imagine que tu imagines plus que vous êtes du niveau d'hier par exemple pour la suite de la compétition.
Oui, bah après l'équilibre il est très fragile, mais c'est vrai que sur ce qu'on a montré depuis le début de la saison, on est quand même costaud, bien en place. Et donc il va falloir compter sur nous. Après, on sait qu'on a phase retour de championnat avec déjà deux matchs de retard. Donc, sur le championnat, on est bien, on est content parce qu'on est dans nos objectifs. Même si le rythme est assez effréné, il va falloir qu'on suive la cadence et qu'on reste dans le top 3, top 4. Et après, maintenant, la Champions Cup, ça va se jouer sur match aller-retour. Donc, du coup, on est content parce que c'était pas une mince affaire de sortir de cette poule avec les matchs contre Leinster et Exeter, qui sont des champions d'Europe. Donc, c'était compliqué. Même si on sait qu'on a eu un petit coup de pouce grâce au Covid aussi, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui serait passé contre Leinster à la maison. Mais bon, on va en profiter. Et on va surtout continuer à bien jouer contre les équipes du championnat pour se préparer au mois d'avril pour cette double confrontation.
Guillaume, c'est ta dernière saison professionnelle. Bientôt, tu vas arrêter. Est-ce que parfois, tu rêves de gagner la Coupe d'Europe pour finir cette belle aventure, en plus, au stade Vélodrome, toi qui es supporter de l'OM?
Forcément, après, c'est vrai
malheureusement,
que,
supporter de l'OM, pardon.
Non, forcément, jouer à Marseille dans un stade comble, ça fait forcément rêver. Mais bon, d'ici là, il y a quand même plus de 6 matchs. Donc il faudra réussir à passer à travers tout cela. Mais jouer les matchs de Coupe d'Europe, on a pu s'en apercevoir ce week-end. C'est toujours un parfum différent de ce qu'on a l'habitude par rapport au championnat, que ce soit par rapport au spectacle, par rapport au rugby en lui-même. C'est un jeu un peu plus léché et il y a souvent beaucoup plus de jeux et d'essais. Donc, ce parfum-là me plaît aussi parce que j'ai eu la chance de le gagner avec Toulon et ça me rappelle ces belles années. Donc, j'espère que... Et j'estime qu'on a une équipe qui tient la route sur le championnat comme sur la Coupe d'Europe. Voilà, la formule est différente parce qu'il n'y a que 4 matchs pour se qualifier. On a réussi à passer outre. Et maintenant, il y a ce fameux 8e de finale aller-retour, un petit peu version Champions League, qui va permettre à tout le monde de sortir les calculettes et de réfléchir à un plan pour calculer combien de points de différence il y aura d'un match à l'autre. Donc, en sachant qu'il y aura un côté stratégique. Et là, malheureusement, on va se rendre compte que de jouer un match à domicile poussé par son public peut changer et faire la différence.
Guillaume, toi, t'es l'ancien quand même.
Tu peux parler, toi?
Mais moi, je suis un très ancien. quand je parle d'ancien, c'est que j'ai l'impression, c'est mon regard extérieur, qu'à Montpellier, pendant des années, il n'y a pas eu une ambiance. On a l'impression qu'il n'y avait pas cette vie de club qui fait la différence au haut niveau. J'ai l'impression aujourd'hui, et toi, est-ce que tu as ce même sentiment, qu'aujourd'hui, vous avez une espèce de bande de copains qui est prêt à faire des exploits? Est-ce que ça vient de Philippe? Est-ce que le Philippe Saint-André qui est arrivé a remis un petit peu de l'ordre? Je sais pas, dis-moi.
Parce
que vous avez vécu l'année dernière peut-être aussi, Guillaume.
Oui, forcément, ça nous a forgé par rapport à cette période et cette victoire en Coupe d'Europe et cette période d'un petit peu de doute par rapport à notre survie et au maintien. Après, je peux pas juger ce qui s'y passait avant. Ce que je sais, c'est qu'aussi on s'appuie énormément sur Fufu qui est quand même l'emblème du club. Hein. et qui a fait toute sa carrière dans le club. Donc c'est quelque chose de fort. Et c'est vrai qu'on est quelques-uns de cette génération où on s'appuie beaucoup sur nous. Et voilà, on a cette responsabilité de tenir en éveil un petit peu le groupe. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous habite. Et on sait que pour nous, c'est nos dernières cartouches aussi. Donc on a envie de bien finir. Et on essaye de pousser tout le monde vers le haut, donc que ce soit sur les détails, que ce soit aux entraînements. Et après, je le dis souvent, parce que c'est quand même la vérité, c'est surtout comment on vit ensemble en dehors, parce que ça fait quand même beaucoup de choses importantes pour après se retrouver sur le terrain. Donc voilà, je pense qu'on a un bon petit groupe. Il y a aussi beaucoup de... Philippe a réalisé, et le club ont réalisé un recrutement aussi français par rapport au fait qu'avec les GIFs, donc il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent à fort potentiel. Et voilà, je pense que même les joueurs étrangers se sentent montpelliérains, et c'est ce qui est le plus beau et ce qui est le plus fort, c'est qu'on est un groupe et qu'on n'est pas, uniquement une équipe de 15 ou de 23.
Guillaume, je voulais m'adresser maintenant à l'ancien capitaine du 15 de France, déjà qui va pouvoir souffler pendant le tournoi, ça fait du bien, j'imagine.
Ils ont des matchs en retard.
Donc tu pourras même pas voir les matchs des Bleus. Juste une question concernant les capitaines, parce qu'il y en a deux maintenant dans cette équipe de France. Il y a Charles Olivon et il y a Antoine Dupont, même si aucun des deux n'est présent d'ailleurs au stage de préparation. Que doit faire Galtier, selon toi ? Est-ce qu'il doit définitivement donner le brassard au petit génie toulousain, ou c'est des choses qui ne se font pas ?
Débrouille-toi avec ça, Guy.
Non, mais après, je pense qu'il s'appuie sur un groupe construit de joueurs d'expérience et qui ont vraiment réussi à faire de belles choses depuis quand même 2-3 ans où ils ont repris les rênes. Donc voilà, je pense à Gaël, à Greg Aldrit. Je crois qu'Anto Gelon, je pense qu'il a été testé positif, je sais pas, je ne me rappelle plus, je crois qu'il est sorti du groupe. Donc voilà, je pense que Greg et Gaël sont les joueurs qui sont les plus expérimentés aujourd'hui et qui sont autour de Antoine et de Charles. Voilà, c'est surtout moi ce que j'aimais dire et ce qui est le plus important pour moi, c'est les joueurs autour du capitaine qui sont ce cercle fermé, ce groupe de leaders. En fait, parce que le capitaine, il faut jamais qu'il tire la couverture vers soi-même et tout seul. Il faut qu'il soit bien entouré. Et vous pouvez regarder dans tous les plus grands livres et dans toutes les plus grandes histoires de certains capitaines. C'est souvent les joueurs cadres qui ont été autour, qui ont fait que le capitaine a été très très bon. Et pour ça, je pense qu'on est armé. Donc voilà, il y a beaucoup d'expérience aujourd'hui. Et voilà, je pense que le tournoi va arriver très très vite. Et je pense qu'on a tous hâte d'être dans ce tournoi version 2022 parce que je pense qu'il promet de belles choses.
Guillaume, j'imagine que tu te régales de voir cette équipe de France. Mais quelque part, ça ne te met pas un peu les boules quand même de voir que cette équipe réussit, que vous n'avez pas réussi à atteindre la même performance qu'aujourd'hui, quoi.
Non, je suis content pour eux. Voilà, il faut vivre avec sa période et vivre avec son temps. Voilà, ce que je leur souhaite surtout c'est de gagner un tournoi, parce que ça fait tellement d'années qu'on n'a pas gagné et qui plus est si jamais faire un grand chelem, parce que c'est souvent les grands chelems qui font l'histoire aussi, mais rien que de pouvoir gagner un tournoi, je pense que c'est quelque chose de magnifique. Pour moi, ça a été mon rêve pendant pas mal d'années et malheureusement, voire trop souvent de fois, ça s'est éteint dès la première journée, donc avec des histoires et avec des affaires à gérer ensuite, mais c'est vrai qu'il faut souvent tout miser sur ce premier match, parce que c'est celui-là qui dicte et qui est le plus important pour la suite de la compétition. Et voilà, je suis vraiment content et épanoui. Moi, j'ai fait ma carrière, j'ai toujours tout donné. J'ai pas de regrets par rapport à cela et je suis pas très très rancunier. Moi, je suis premier supporter, comme je l'ai eu dit dans les vestiaires à la fin et le dernier moment que j'ai passé avec l'équipe de France. Donc voilà, je suis pas un rageur et je suis pas quelqu'un qui est gris. Donc par rapport à ça, j'ai aucun problème et aucun souci.
Merci Guillaume, merci beaucoup. C'est un plaisir de discuter avec toi. Bravo en tout cas pour cette.
On peut l'inviter toutes les semaines si vous voulez.
Oui, oui.
Ça sera plus intéressant que toutes les conneries qu'on
raconte. Oui.
Bah, c'était lui ou toi, donc la prochaine fois.
Est-ce que le goré va bien, Guillaume ?
Ouais. Ouais, ça va, il a repris du poil de la bête.
Bon, il n'a pas repris de trop de poids, j'imagine. Ouais. Du poil,
du poil.
poil, ouais,
ouais,
poil.
Attention.
Ouais, il est fit. On précise, Christophe, que ce sera, s'ils passent, s'ils ont le bonheur de passer l'Harlequin, ce sera soit à l'UBB, soit à La Rochelle ensuite.
Facile.
Pas mal,
des demi en perspective.
En tous les cas, on peut souhaiter à Guillaume une super fin de saison et donc de carrière et puis ce rendez-vous européen. Et finalement, c'est avec tout ce qui s'est passé au Leinster la semaine dernière, la conclusion, c'est génial et on te souhaite le meilleur pour cette fin de carrière, Guillaume.
Absolument.
Merci beaucoup, Agnès.
Bonne chance.
Merci, Guillaume. Salut, Guillaume. À très bientôt sur les terrains et après, puisque c'est donc ta dernière saison dans le rugby de très haut niveau. Voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le tour de la question. Tout petit mot de l'équipe de France. Il y a eu quelques cas de Covid.
Oui, mais ça se trouve, il y en aura d'autres d'ici la fin de semaine, donc on sort.
Il ne ressemble plus vraiment au groupe qui avait été annoncé.
Il faut préciser peut-être que ces joueurs peuvent revenir le week-end prochain, parce que les gens ont tendance à penser que c'est des forfaits.
Non,
mais c'est pas vraiment
c'est
ça.
C'est forfait pour la début de semaine.
On
quoi,
peut
pour
penser
cette
qu'ils
semaine.
Joueront ce week-end en top 14, voilà. Et qu'ils reviendront à partir de dimanche en équipe de France.
C'est ça.
Ils ont le droit d'aller manger des gaufres, non ?
Il n'y a plus de gaufres.
Guillaume, il
n'a
pas connu
ça. Mais nous,
ça.
On a le droit d'aller dîner le 6 février. Hein, donc on vous rappelle le pari raté de Denis Charvet sur l'association Entamac.
Je ne suis pas le seul. Il y a Christophe avec moi ce soir-là. Il y a Christophe avec moi et Manu.
Ça vous dit bien ?
Ça s'approche. Donc tous les habitués du podcast, voilà, c'est l'épilogue bientôt.
Nous sommes trois payeurs.
Je pense que je serai positif ce soir-là.
Et on le dit publiquement.
Tout nouvel abonné au podcast des potos, c'est Wilfried qui l'invite à dîner. Voilà, c'est comme ça.
C'est pas cher la vie à Toulouse.
C'est grande famille, les auditeurs.
600 000 euros, hein, tout ça.
Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Entre les potos, bonne semaine, ciao.